Vous écoutez France Culture. Conférence de l'Université populaire de Michel Onfray, le génie de l'hédonisme, 8e année, la fabulation freudienne, Sigmund Freud.
Merci d'être là, si nombreux. Bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver. Ce cours est consacré à ce que j'avais appelé le verrouillage sophistique, ou un verrouillage sophistique. Il s'agit de montrer que dans cette aventure qu'est la psychanalyse, Freud avait prévu qu'on pourrait ne pas être d'accord avec lui et avait préparé des arguments en interdisant qu'on ne soit pas d'accord avec lui. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être d'accord, inviter au dialogue, au débat, pratiquer ce qu'Habermas, un grand philosophe contemporain allemand aussi, appelle l'agir communicationnel, c'est-à-dire la discussion, le débat, le respect d'autrui. On ne considère pas qu'autrui dit n'importe quoi, on considère qu'il dit des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, mais on examine son propos, on ne lui fait pas tenir des propos qu'il ne tient pas pour mieux les détruire, pour mieux les assassiner, mais simplement on prend des arguments et on débat à partir de ces arguments. Le freudisme exclut qu'on puisse procéder de la sorte. Pour ce faire, et la séance sera consacrée d'une certaine manière à illustrer cette phrase, je voudrais vous lire cet extrait des nouvelles suites des leçons d'introduction à la psychanalyse, tome 19 de l'œuvre complète, page 244 pour ceux qui douteraient. Freud écrit « La vérité ne peut être tolérante ». La vérité ne peut être tolérante. Il a pratiqué ainsi. Il a découvert la vérité, nous dit-il. Il n'a pas été tolérant et ses disciples ne sont pas tolérants non plus. Et vous allez voir, la chose était prévue, donc je vous dis, de longue date, mais que les arguments freudiens sont des arguments qu'on trouve toujours intacts, inchangés, pour interdire qu'on ne soit pas d'accord avec le freudisme. Si vous n'êtes pas d'accord avec le freudisme, c'est que vous êtes malade, névrosé, qu'il vous faut vous allonger sur un divan, que vous êtes antisémite, que vous n'avez rien compris, que puisque vous n'êtes pas psychanalysé, vous n'avez pas le droit de dire, vous ne savez pas ce que c'est véritablement, etc. Donc je vais vous proposer 6 sophismes qu'on va tâcher de démonter les uns après les autres, parce que on peut tout de même légitimement ne pas adhérer à ce que nous dit Freud, et il en va de toutes les pensées, quelles qu'elles soient. Une pensée doit pouvoir admettre qu'on ne soit pas d'accord avec elle et qu'on puisse la discuter sans que pour autant on criminalise ceux qui ne seront pas d'accord avec la pensée en question. À cette heure de l'année, je dirais, on peut faire un bilan de ce qui aura été dit. Je vous ai fait une proposition particulière en vous disant « ça n'est pas une doctrine scientifique ». C'est une psychologie littéraire, c'est pas rien non plus, une psychologie littéraire. Quand on dit ça, on n'a pas dit que Freud, c'était n'importe quoi. Non, c'est juste une psychologie littéraire, ce qui est beaucoup, mais c'est pas tout, et c'est sûrement pas une science. C'est une philosophie, probablement une philosophie existentielle, une philosophie qui lui permet de bien vivre ou de mieux vivre personnellement. Il extrapole à partir de découvertes personnelles ou d'intuitions personnelles de prétendues vérités universelles, et il universalise sa maxime, pour le dire dans un vocabulaire kantien. Il nous dit que le complexe d'Œdipe, c'est la vérité de tout un chacun. C'est faux. Enfin, on peut croire que c'est faux. On peut imaginer que, puisque ça a été le cas, et on l'a vu, de Freud lui-même, ça n'est pas parce que c'était son cas que ce cas est susceptible d'une extrapolation universelle, avant lui, pendant lui et après lui. On peut considérer également que les histoires dont je vous ai parlé au moment où on a abordé le totem et tabou, de scènes primitives, de meurtre du père, de consommation de la chair du père dans un banquet primitif comme une scène primitive qui serait à l'origine de la loi, de la philosophie, de la sublimation, enfin une espèce de clé de voûte de l'ensemble de l'édifice de la civilisation. On peut ne pas croire, par exemple, que la théorie de la séduction est une théorie juste, même si, vous avez eu l'occasion de le voir, Freud nous dit que c'est une théorie qui est juste, mais à laquelle il renonce apparemment, parce qu'effectivement, à chaque fois que vous recevez des gens et que vous leur faites savoir que leur problème, c'est d'avoir été abusé par leur père dans leur enfance, il y a un moment où, effectivement, les gens demandent des comptes à leurs propres parents et les parents viennent demander des comptes aux psychanalystes et on vide son cabinet. Et Freud ne visait qu'à remplir son cabinet. Donc il a renoncé apparemment à cette théorie de la séduction qui continue le restant de son existence puisque tout problème est relatif à des histoires édipiennes et que l'affaire édipienne est évidemment une variation sur le thème de la séduction. On peut ne pas croire non plus à l'idée qu'un inconscient serait phylogénétique, c'est-à-dire qu'il y aurait un inconscient qui, depuis le début de l'humanité, aurait transmigré d'être en être. Comment d'ailleurs ? On ne sait rien, l'inconscient est prétendument psychique. Mais en fait, ce qui aurait eu lieu dans l'humanité la plus ancienne, la plus primitive, ce serait toujours réel. C'est-à-dire la vérité de notre instant, elle coïnciderait avec la vérité des débuts de l'humanité. On peut aussi ne pas souscrire à ce que j'ai appelé l'inconscient nouménal, en empruntant le mot à Kant, qui oppose, vous en souvenez, le nouménal et le phénoménal, le nouménal n'étant pensable que par l'appréhension conceptuelle, alors que le phénoménal est susceptible d'une appréhension sensuelle ou sensorielle. Donc l'inconscient, ce serait ça, ce serait uniquement un objet conceptuel, un objet nouménal, ce que d'ailleurs nous dit Freud. Les Freudiens ne veulent pas le savoir, mais Freud nous l'a dit très précisément. Il nous dit « c'est une allégorie » et les gens prennent ça pour une vérité. Il nous parle de causalités dont j'ai cru vous faire voir qu'elles étaient tout de même un peu magiques. Ça n'est pas parce que quand vous vous allongez sur un divan et que vous avez le réflexe de refaire le pli de votre pantalon, c'est que vous êtes un obsédé du sadique anal, du stade sadique anal, et que vous êtes immanquablement un coprophile. Vous allez manger vos excréments parce que vous avez refait le pli de votre pantalon. On peut se souvenir que nombre de cas sont des cas inventés, et que les fameux 18 cas qui lui permettaient de dire qu'il avait travaillé la clinique de ses patients qui lui permettaient de conclure à la théorie de la séduction, ben ces 18 cas n'ont jamais existé. Les fameux cas qui sont des cas emblématiques, cas d'Aura, l'homme au loup, etc., le président Schreber, ce sont des inventions de papier, des guérisons de papier. C'est toujours facile de dire qu'on a guéri l'homme au loup. Sergueï Pankaïev, quand devenu octogénaire lui-même, il fait savoir qu'il souffre toujours autant et qu'il va toujours chez les psychanalystes, alors qu'il nous dit ça en 1974, alors que théoriquement, il est guéri depuis 1918, nous dit Freud. Donc effectivement, quand on met tout ça bout à bout, on peut considérer que peut-être on n'est pas tenu d'adhérer à cette psychologie littéraire. Eh bien, vous avez des gens qui disent que si vous n'adhérez pas à cette psychologie littéraire, c'est que vous êtes malade à psychanalyser d'urgence, bien sûr. Vous refusez de savoir ce qu'il y a dans votre inconscient. Vous refusez de vous connaître. Vous avez peur de découvrir ce que l'inconscient sait déjà. C'est-à-dire que pour les garçons, vous désirez coucher avec votre mère, détruire votre propre père. Pour les filles, coucher avec votre père, détruire votre mère. Alors, il nous dit l'inconscient le sait, mais vous ne voulez pas le savoir. Et c'est parce que l'inconscient le sait que vous résistez à la psychanalyse. C'est-à-dire que Freud a tout prévu. La doctrine inclut une lecture doctrinaire du refus de la doctrine. Donc, avec Freud, on n'échappe pas à l'empire du freudisme. La société psychanalytique est close, elle est fermée sur elle-même. On pourrait reprendre les catégories de Karl Popper, qui a écrit un très beau livre, « La société ouverte et ses ennemis », qui lui-même reprenait une formule de Bergson sur les sociétés ouvertes et sur les sociétés closes. Et effectivement, il y a des sociétés ouvertes, elles sont démocratiques, on peut y circuler, même intellectuellement, conceptuellement, on peut y circuler, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on débat, on s'écoute, on s'entend, on ne se méprise pas, on avance, on progresse. Et puis des sociétés closes qui interdisent que vous puissiez ne pas être d'accord. Les religions sont toutes des sociétés closes, quand elles ont les moyens du bûcher. Quand elles n'ont pas les moyens du bûcher, comme le christianisme aujourd'hui, elles sont tolérantes faute de mieux. Elles font de nécessité vertu. Mais quand elles avaient les moyens du bûcher, elles n'étaient pas tolérantes. Le marxisme, quand il avait la possibilité du bûcher ou du goulag, il n'était pas tolérant. Et le marxisme, lui aussi, avait un corpus doctrinal qui interdisait qu'on ne soit pas d'accord avec lui. Quiconque n'était pas marxiste dans un régime marxiste était un ennemi de classe, était un bourgeois, était un intellectuel, était un réactionnaire, était un juif, souvent, dans la logique de Staline, par exemple, à déporter, au goulag. Il en va de même chez Freud, avec les Freudiens, et pour la psychanalyse. C'est-à-dire que, dès son vivant, dès qu'il élabore sa théorie, Freud a prévu un tribunal pour juger les opposants. La plaidoirie, elle existe, elle est disséminée partout dans l'œuvre. J'ai ramassé tout ça pour cette séance de ce soir. L'argumentaire est régulièrement donné, c'est facile, c'est à peu près toujours la même chose, vous allez voir. Et la péroraison du procureur qui parle pour l'inconscient est écrite, est toujours écrite, elle est déjà écrite, elle se trouve dans l'œuvre complète. Comment est-ce qu'il a procédé, Freud, personnellement? Comment est-ce qu'il a démarré lui-même quand il a eu affaire à la critique, qui n'a pas été aussi agressif qu'il a bien voulu le dire? Dans ses textes autobiographiques, il nous explique qu'il s'est fait insulter, mépriser, etc. Des historiens, et pas des gens qui entretiennent la légende, mais des historiens, on fait ce travail en se disant, eh bien, on va dépouiller la presse de l'époque pour voir comment ont été reçus les livres de Freud. Ça a été très bien reçu. Il n'y a pas eu ce déluge de mépris, d'insultes que Freud prétend avoir subi. En revanche, qu'il ait estimé que ça ne soit pas allé assez vite, que ça n'était pas assez bien, qu'il n'y ait pas eu assez de bons papiers, qu'on ne l'ait pas assez soutenu, promu, etc., c'est assez probable, mais c'est un effet subjectif de sa perception des choses, il n'a pas été maltraité. Alors, et ça commence avec un plaidoyer personnel, c'est-à-dire qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, et Freud commence en écrivant des textes autobiographiques ultra-légendaires. C'est-à-dire qu'il écrit un texte qu'on appelle l'autoprésentation aujourd'hui, avec la nouvelle traduction, que vous pouvez trouver dans les anciennes traductions sous le titre « Ma vie et la psychanalyse », et puis un autre qui s'appelle « Contribution à l'histoire du mouvement psychanalytique ». Dans ces deux textes-là, Freud sculpte sa légende, sa statue de son vivant. On laisse de côté tout ce qui est négatif, on laisse de côté toutes les errances, on laisse de côté toutes les tromperies. Bien sûr qu'on passe sous silence les affaires d'Emma Eichstein, les fameux 50 cm de gaz retrouvés dans le nez oublié par l'ami Fliss au moment de l'opération. Bien sûr qu'on passe sous silence l'affaire de la cocaïne qui a permis de fusiller son copain simplement parce qu'il pensait qu'avec la cocaïne on pouvait guérir de la morphinomanie. Bien sûr qu'on laisse de côté les cas de papier, les inventions de guérison, bien sûr que, etc., etc. Quand on écrit une autobiographie, on est souvent dans la légende et dans le légendaire. Donc on pourrait aujourd'hui, à destination par exemple des classes de terminale, mais aussi du grand public, faire des éditions critiques de ces ouvrages qu'on invite toujours à lire. Moi, j'ai été victime de ça en terminale. On nous demandait de lire « Ma vie et la psychanalyse ». Et de fait, vous avez un récit raconté par le personnage qui est juge et parti. Et personne, il ne vient à l'idée de personne de mettre en cause, de mettre en doute la vérité ou la validité de ce qui est raconté. Si on cherche des preuves de tout ce qui est avancé par Freud, on découvre effectivement un nombre incalculable de mensonges. Ces sculptures de soi produites par Freud lui-même dans les autobiographies vont générer une biographie. J'ai déjà eu l'occasion de vous en parler, c'est celle d'Ernest Jones. La vie et l'œuvre de Sigmund Freud, 1500 pages. On a l'impression que tout est dit, que c'est définitif. Et comme Jones a connu personnellement Freud, comme Jones a travaillé ensuite avec Anna Freud, fille de Sigmund Freud, eh bien on considère que c'est parole d'évangile et que tout ce qui est dit dans cette aventure est vérité. Par exemple, quand on explique que Freud a été la victime du nazisme parce qu'il y a eu des autodafés en 1933 et qu'on a jeté des livres de Freud au feu, c'est vrai. Quand on fait savoir que Freud, après le passage de la Gestapo, aurait fait savoir à la Gestapo, puisqu'on lui avait demandé un petit billet en disant « faites un billet pour dire qu'on vous a pas maltraité », Freud aurait écrit qu'il avait reçu la Gestapo et que la Gestapo s'était correctement comportée avec lui et qu'il, d'ailleurs, se faisait fort de conseiller la Gestapo à quiconque et de la recommander à quiconque. Et on s'est dit « comme c'est drôle, c'était l'humour juif de Freud, etc. » Sauf qu'il n'y a pas de billet. Il n'y a pas de texte. Personne n'a jamais retrouvé ce texte. Il n'y a pas de preuve que Freud ait véritablement dit cette chose-là. Il n'y a pas de témoin. Il y a simplement des gens qui disent qu'il l'a dit. Et par la suite, puisque Jones le dit, eh bien, c'est que c'est la vérité, puisqu'il a récupéré la parole du maître de la bouche du maître même, donc il a dit la vérité. Même si cette parole peut donner l'impression d'être effectivement apocryphe et inventée, si, surtout si on la met en perspective avec ce que l'on sait véritablement, de ce que Freud pensait du fascisme, du nazisme, du national-socialisme, de l'austrofascisme du chancelier Dollfuss. Enfin, on reprécisera toutes ces choses-là par la suite, mais pour vous dire que dans la biographie de Jones, on produit une matrice légendaire. C'est la matrice de la légende à l'intérieur de laquelle tout le monde va prélever. Et vous avez une abondante bibliographie de gens qui se citent mutuellement, les uns les autres, sans jamais avoir fait fonctionner une seule seconde leur esprit critique. La chose a été dite une fois, elle devient vérité. Un mensonge plusieurs fois réitéré devient une vérité. Et puis cette vérité, plusieurs fois dite, elle devient une parole d'évangile. Et le premier qui dit que cette parole d'évangile, elle est peut-être effectivement une production, une vue de l'esprit ou une invention, eh bien celui-ci, on lâche les chiens sur lui. Il y a une troisième possibilité pour fabriquer la légende, c'est de dire, voilà, à chaque fois qu'on va critiquer la psychanalyse, eh bien voilà ce que vous allez pouvoir répondre à vous qui êtes mes défenseurs. On verra en fin d'année comment Freud a organisé sa petite secte. Et je dis toujours, et vous le savez, qu'une religion, c'est une secte qui a réussi. Eh bien, il en va de même avec la psychanalyse. Elle a été très secte, une espèce de petit cénacle extrêmement fermé, extrêmement clos, avec 6 ou 7 personnes. On distribuait des intailles, c'est-à-dire des bagues avec des pierres taillées pendant l'Antiquité. Et Freud désignait ses disciples. Et il a fait savoir à ses disciples ce qu'il fallait dire, proposer l'argumentaire, ce qu'il fallait dire quand la psychanalyse était attaquée, quand Freud était attaqué, quand le freudisme était attaqué. Il y a donc un schéma type de la plaidoirie espèce d'argumentaire qui ont construit à l'usage du tribunal révolutionnaire freudien dès qu'une critique apparaît. Je vous donne ce schéma type, ces six sophismes, et puis on les développera les uns après les autres. Premier sophisme, toute opposition venant d'un individu non analysé est nulle et non avenue. Vous n'avez pas été analysé, vous n'avez pas le droit d'avoir un avis sur la psychanalyse. Deuxième sophisme, tout refoulement de l'analyse signale un névrosé dont, de fait, le propos est invalide. Vous n'êtes pas d'accord, normal, vous êtes malade, vous auriez besoin de vous allonger sur un divan. Troisième sophisme, toute critique de la psychanalyse repose sur une critique de Freud qui était juif. Elle est donc toujours suspecte d'antisémitisme. Quatrième sophisme, toute critique émanant d'un tiers, exclue du couple analyste-analysé, est infondée. Quiconque n'est pas analysé lui-même n'a pas le droit de dire, et quiconque est un tiers n'a pas le droit de dire non plus. Donc, vous avez le droit de parler simplement si vous êtes analysé vous-même. Cinquième sophisme, tout échec de la psychanalyse est imputable au patient, jamais au psychanalyste. C'est-à-dire que quand ça marche, c'est grâce au psychanalyste, quand ça ne marche pas, c'est à cause du patient. Et vous verrez, on va développer les histoires de résistance, le bénéfice de la maladie, l'échec à cause du succès, ça c'est quand même pas mal comme truc, vous allez voir, l'échec à cause du succès. Une névrose pouvant en cacher une autre, comme je sais qu'il aimait bien les trains, j'ai fait une formule. La viscosité de la libido, le transfert négatif, la pulsion de mort, le masochisme, le désir de prouver sa propre supériorité à l'analyste. Enfin, tout est prévu par la psychanalyse pour expliquer que si ça ne marche pas, c'est la faute du patient. Et puis, dernier sophisme, le psychanalyste n'est pas assez psychanalyste encore. C'est-à-dire que si ça ne marche pas aussi bien que ça aurait dû marcher, c'est parce qu'il n'a pas mis la dose assez forte dans un premier temps. Donc, on va reprendre ces sophismes les uns après les autres. Premier sophisme, donc, toute opposition venant d'un individu non analysé est nulle et non avenue. La chose est dite dans un petit texte qui s'appelle « L'abrégé de psychanalyse », qui est un texte prévu pour synthétiser l'ensemble d'une vie de pensée et de réflexion. Et voici ce que Freud écrit. « Les enseignements de la psychanalyse résultent d'un nombre incalculable d'observations et d'expériences, et quiconque n'a pas réalisé, soit sur lui-même, soit sur autrui, ses observations, ne saurait porter sur elles de jugement indépendant. » Ça, la chose est claire. Vous êtes analyste, vous êtes analysé, vous avez le droit de parler de la psychanalyse, vous pouvez en dire des choses justes et intelligentes. Vous n'êtes pas analyste, vous n'êtes pas analysé, vous ne pouvez rien dire. Vous n'avez pas le droit. Comparaison n'est pas raison, mais ça revient un petit peu à dire que vous avez bien le droit d'être athée, seulement si vous avez fait 10 années d'études au séminaire, que vous avez fait une thèse de théologie et que vous avez été 10 ans prêtre. Alors là seulement, vous pourriez avoir le droit d'être athée, mais pas avant. On peut imaginer qu'après tout, on peut avoir un avis sur Freud et la psychanalyse sans forcément s'être allongé sur un divan. En fait, ça veut aussi dire qu'il y aurait une nécessité de l'endoctrinement pour pouvoir reparler. Après avoir été endoctriné, alors vous pourriez être un homme libre. Alors qu'on peut imaginer que peut-être quand on évite l'endoctrinement, on peut avoir un jugement libre. Et que peut-être le dernier à pouvoir parler de psychanalyse, c'est le psychanalyste, c'est l'analyser. La possibilité de juger, elle exclut même qu'on soit jugé parti. Elle suppose qu'on puisse être extérieur, qu'on puisse être un tiers. D'autant que Freud nous fait savoir que seuls les analystes ou les analysés ont le droit de parler de la psychanalyse et que nombre de psychanalystes contemporains de Freud se sont fait vertement tenser, voire plus que ça, exclure, expulser par Freud lui-même, simplement parce qu'ils divergeaient sur tel ou tel point. Et les psychanalystes psychanalysés, quand ils disaient que peut-être le complexe d'Œdipe n'était pas universel et que peut-être on pouvait voir du côté de ce que Adler, par exemple, appelait l'infériorité d'organes, eh bien, Freud disait « mettez-moi ça dehors, à la porte, on organise une exclusion ». Il existe une lettre à Binswanger dans laquelle Freud parle de l'élimination des éléments douteux. Deuxième sophisme, tout refoulement de l'analyse signale un névrosé dont, de fait, le propos est invalide. La résistance à la psychanalyse signale donc un refoulement qui prouve la névrose, l'affaire est réglée. C'est-à-dire qu'on transforme en malade celui qui n'est pas d'accord avec Freud. Et on en fait un paranoïaque, schizophrène, hystérique, etc. Enfin, si vous prenez l'histoire de Freud et des relations qu'il aura entretenues avec ses amis, avant qu'ils ne deviennent ses adversaires, puis des ennemis sur lesquels il a craché bave et venin, En donnant d'ailleurs les détails de ce qu'il avait obtenu sur leur vie privée et quand ils étaient allongés sur le divan, Freud considère effectivement qu'à partir de ce moment-là, on peut détruire les gens qui ne sont pas d'accord avec vous et les détruire en les criminalisant, en allant voir du côté du diagnostic psychiatrique et vous faites de celui qui n'est pas d'accord avec vous un hystérique, un paranoïaque, un névrosé, un grand masturbateur. C'est-à-dire la grande relation Freud-Fliess, s'est trouvé terminé du fait de Fliess. C'est Fliess qui a considéré que Freud était devenu insupportable. C'est Freud qui fait savoir qu'il a rompu, bien sûr. Mais à partir de ce moment-là, Fliess devient un masturbateur compulsif, un personnage hystérique, un personnage paranoïaque, etc. La criminalisation, donc, de celui qui n'est pas d'accord est prévue par la doctrine. On ne veut pas voir, nous dit Freud, que quand on refuse la psychanalyse, qu'on veut coucher avec sa mère quand on est un garçon et qu'on veut tuer son propre père. C'est ça qu'on ne veut pas voir quand on dit non à la psychanalyse. Freud dit, votre inconscient le sait, lui, que vous avez tué le père de la horde primitive il y a des millions d'années et que vous êtes coupable de ce forfait commis alors qu'il n'était même pas question que vous soyez vivant un jour. C'est comme le péché originel. Il y a eu Adam, il y a eu Ève, il y a eu le péché originel, et la faute s'est transmise de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Et nous sommes, du moins les chrétiens le disent, nous sommes marqués par le péché originel. Et s'il y a du mal sur la planète, s'il y a de la négativité, s'il y a de la mauvaiseté, de la méchanceté, c'est parce qu'il y a eu un jour le péché originel. Eh bien Freud nous dit la même chose. Il y a eu un banquet primitif, il y a eu un meurtre du père, il y a eu un père qui possédait la totalité des femelles, il y a eu destruction de ce père, manducation du corps mort du père qui venait d'être tué par les fils. Et depuis ça, eh bien, nous portons cette affaire-là dans notre propre inconscient. Et c'est ça que vous ne voulez pas voir, dit Freud. C'est ça. Vous ne voulez pas voir que vous voulez coucher avec votre père ou coucher avec votre mère. Vous ne voulez pas voir que vous avez tué le père jadis. Vous ne voulez pas voir que vous avez été séduit par votre propre géniteur. Et plus vous résistez, plus vous avez des choses à vous reprocher. Et donc ces choses à reprocher, elles sont bien la preuve de l'existence de l'inconscient. Refuser la psychanalyse, c'est donc refuser la connaissance de soi. C'est refuser l'introspection qui vous permettrait, si vous aviez l'audace, le courage, dit Freud, d'aller voir à l'intérieur de votre inconscient, qui vous permettrait de découvrir qui vous êtes, réellement, finalement. Pourquoi vous avez ces problèmes existentiels, ces douleurs à être, ces difficultés à vivre? Eh bien, les réponses, elles sont là, dit Freud, dans votre inconscient. Et vous ne voulez pas savoir ce que c'est que ces choses-là. Voilà pourquoi vous faites une espèce de réaction de rejet de l'inconscient et de la psychanalyse. Et puis il y a cette idée assez singulière qui procède de ce que j'appellerais une espèce de révolution nihiliste, qui fait que Freud nous dit que finalement, il n'y a pas des gens bien portants et il n'y a pas des gens malades. Doctrine que tous les gens malades ont intérêt à défendre. On a intérêt à dire effectivement qu'il n'y a pas de gens sains et des gens malsains, mais que tout le monde est plus ou moins malsain. Il nous dit, Freud, et là, dès le départ, puisqu'on est dans les minutes de la société psychanalytique, quand elle se constitue, dans les minutes, il y a cette phrase, on a reconnu de façon générale que les différences entre les individus normaux et les névrosés sont de nature quantitative et non qualitative. C'est une révolution nihiliste. Cette idée qu'il n'y aurait pas le normal et le pathologique, des gens bien portants et des gens mal portants, mais qu'il n'y aurait que des gens plus ou moins mal portants, qu'il n'y aurait que des pathologies plus ou moins importantes, et que tout serait dans le plus ou moins. Donc un névrosé serait plus névrosé que son voisin. Mais finalement, il n'y aurait pas des gens névrosés, des gens qui ne le seraient pas. Et ça, c'est une proposition extrêmement dangereuse de Freud, qui consiste à dire effectivement qu'après tout, pourquoi est-ce que l'hystérie, la névrose, la paranoïa, la schizophrénie seraient des problèmes, puisqu'on est tous névrosés, névrotiques, paranoïaques, schizophrènes, etc. Plus ou moins, certes, mais qu'on l'est tous. Ça rend difficile la distinction entre un bourreau et sa victime, un violeur et quelqu'un qui a été violé, un voleur et quelqu'un qui a été volé. Si effectivement le psychisme est le même, si finalement le bourreau est une victime potentielle ou que le bourreau est aussi victime de temps en temps, ou si la victime est un petit peu bourreau, alors de fait, on finit par avoir une espèce de vulgate qui va vous dire que finalement le coupable c'est la victime et la victime c'est le coupable. Et que ben finalement, on aura de la compassion pour les criminels parce qu'on l'est tous plus ou moins, potentiellement, et que la victime, on l'oubliera plus ou moins, parce que ça, c'est pas très important. Ce qui importe, c'est que, effectivement, les victimes sont aussi susceptibles d'être des bourreaux. Oui, mais être susceptible, c'est pas être, véritablement. Et quand les opposants à l'avortement nous disent qu'un fœtus, c'est une personne potentielle, ça n'est pas une personne. On peut comprendre que Freud souffrant du tropisme édipien dont je vous ai parlé en début d'année, pour vous faire un portrait, une espèce de psychobiographie de Freud, il ait pu penser une chose pareille. On peut penser effectivement que quand saint Paul, impuissant, incapable de séduire des femmes, dit « faites comme moi, névrosons la planète et comme ça je me sentirai normal », et donc on arrête la sexualité, chasteté et la vérité de votre corps, eh bien on peut imaginer que c'est peut-être un bien pour Saint-Paul, mais pas forcément pour l'humanité tout entière. C'est peut-être bien pour Freud de croire effectivement que tous les petits garçons ont envie de coucher avec leur mère, mais on peut aussi imaginer que névroser la planète n'est pas forcément la solution pour pouvoir vivre avec sa propre névrose. Et que la pathologie, on ne va pas la considérer moralement, on ne sait pas bien, on est au-delà du bien et du mal dans cette aventure, mais considérer qu'effectivement, il y a des gens qui n'ont pas envie forcément de tuer leur père, de coucher avec leur mère, de considérer que leur père les a sodomisés dans leur enfance ou dans leur adolescence, et que ces gens-là, eh bien, ce ne sont pas les mêmes que ceux qui pensent que ces fictions ont structuré la totalité de leur existence. Troisième sophisme, toute critique de la psychanalyse repose sur une critique de Freud, qui était juif, elle est donc toujours suspecte d'antisémitisme. Comme ça, l'affaire est réglée, Freud était juif, vous dites que Freud dit des bêtises, eh bien vous dites « Ah ben, vous êtes antisémite ». Évidemment, la chose est claire. Alors évidemment, on est dans une période qui est avant Auschwitz. Entendons-nous bien, cette espèce de sophisterie, elle a des dimensions particulières avant Auschwitz, elle en a d'autres ensuite. L'idée de traiter d'antisémites des gens après la Shoah, ça signifie quand même autre chose que de les traiter d'antisémites dans une époque où, de toute façon, l'antisémitisme est indéfendable par quelque forme que ce soit, mais de considérer que l'antisémitisme à cette époque-là ne contribue pas à envoyer des gens dans les chambres à gaz. C'est par la suite que les choses se penseront en regard de la chambre à gaz. Il ne faut pas oublier non plus que cet antisémitisme-là, d'avant Auschwitz, peut-être un antisémitisme de petits ruisseaux qui finira par faire les grandes rivières du national-socialisme. Donc il faut raison garder, faire de l'histoire en se disant l'usage du juif comme d'une figure détestable ou adorable n'est pas le même, l'usage donc, hein, avant 1933, enfin 1942, on dirait, ou 1944 et 1945, la libération des camps, avant ou après. Freud lui-même donne l'argument, puisque dans la fameuse autoprésentation, il écrit « La psychanalyse est devenue le contenu de ma vie. » La psychanalyse est devenue le contenu de ma vie. Ce qui veut dire que vous mettez un signe d'égalité entre Freud, freudisme et psychanalyse. Voilà pourquoi il ne peut pas accepter qu'il y ait une psychanalyse avant lui, celle de Breuer, celle de Forel, et qu'il ne peut pas expliquer ou justifier ou accepter qu'il y ait une psychanalyse pendant lui, celle d'Adler, celle de Jung, celle de Ferenczi, celle de quelques autres, et qu'il ne pourrait pas non plus accepter que 50 ans plus tard, il y ait une psychanalyse existentielle sartrienne, ou qu'il y ait un freudomarxisme chez, pas 50 ans plus tard, mais beaucoup plus tôt, mais chez Erich Fromm, chez Marcuse ou chez Reich, dont nous parlerons l'an prochain. Ça n'est pas possible. La psychanalyse, c'est lui. Il nous le dit. La psychanalyse, c'est moi et personne d'autre. Donc si on veut être psychanalyste, on est freudien. Et si on est freudien, on adhère à tout. Et si on n'adhère pas à tout, c'est qu'on est antisémite. Il dit régulièrement qu'il s'est éloigné des pratiques judaïques. C'est vrai. Et on le voit quand il s'est marié avec Martha, qui elle-même était juive. Martha souhaitait pratiquer, obéir à un certain rituel. Et Freud a interdit que dans la maison, on pratique le rituel. C'est-à-dire qu'à Pâques, il y avait la cérémonie des œufs dans le jardin et que Freud était, on pourrait dire, un judéo-chrétien. C'est-à-dire quelqu'un qui était d'origine juive, mais qui avait laissé de côté le rituel juif pour accepter le principe chrétien dans une aventure qu'on pourrait appeler judéo-chrétienne. Mais il avoue, par ailleurs, qu'au plus profond de lui, il est juif. Et pour ça, il faut lire l'œuvre complète. Et quand vous avez lu l'œuvre complète et que de temps en temps vous dites préface à la traduction en hébreu de Totem et Tabou, vous dites je pourrais passer ça. Non, il faut lire ça. Et quand vous lisez la petite poignée de pages, ça fait pas grand-chose, hein, mais la petite poignée de pages de ce fameux avant-propos à l'édition en hébreu de Totem et Tabou, vous découvrez que Freud dit qu'il s'inscrit, que son travail s'inscrit, la psychanalyse, hein, ouvrez les guillemets, dans l'esprit du nouveau judaïsme. Dans l'esprit du nouveau judaïsme. J'ignore la pensée talmudique, la pensée juive, c'est un univers que je ne connais pas et je ne veux pas m'engager sur ce genre de terrain parce que je n'ai pas les moyens intellectuels de comprendre ces choses-là, sauf que j'ai souhaité comprendre ce que ça pouvait signifier chez Freud, le nouvel esprit, enfin l'esprit du nouveau judaïsme. C'est quoi le nouveau judaïsme ? L'ancien judaïsme, on le sait tous plus ou moins, par la culture, par la lecture, mais qu'est-ce que ça peut signifier aujourd'hui, l'esprit du nouveau judaïsme ? Il ne donne pas de détails. Il nous dit simplement qu'un jour, la science, on sait ce qu'il appelle la science, hein, la science permettra probablement de comprendre ce que ça signifie être juif. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce qu'il faut croire? La science, ça veut dire quoi? Qu'il y aurait un gène de la judaïté? Certains le pensent. Certains juifs le pensent. Certains juifs pensent qu'avec une prise de sang, on peut savoir si effectivement vous avez des marqueurs qui ferait la preuve que vous auriez du sang juif. Lecture raciale des choses, bien sûr, voire lecture raciste. On peut aussi être juif et raciste en considérant effectivement qu'il y aurait des races pures et des races impures et que la race pure ne se mélange pas avec les races impures. C'est le fondement, je dirais, du racisme. On n'en saura pas plus sur Freud. On pourrait presque extrapoler. Mais là, j'extrapole, mais il faudrait un travail avec des gens ayant des compétences qui ne sont pas les miennes, mais extrapoler en pensant que Freud pense la psychanalyse comme un nouveau judaïsme, comme une espèce de religion nouvelle, juive en l'occurrence, qui nous permettrait, autour de cette figure de l'inconscient, figure nouménale, donc qui ressemble à quelque chose d'assez divin, qui disposerait des caractères d'un dieu juif, d'un dieu intelligent, malin, rusé, subtil, parce qu'il est la raison, il est l'intelligence, parce qu'il est, il est susceptible de... Il recule quand vous vous avancez. Enfin, n'y voyez pas malice de ma part. Mais dès que vous avez une définition, eh bien, on s'aperçoit que la définition ne marche pas. Si vous dites qu'il est grand, ça veut dire qu'il n'est pas petit. S'il n'est pas petit, ce n'est pas Dieu. Donc il est grand et il est petit en même temps. Oui, mais pas justement grand et petit. Enfin, vous avez tout ce qu'on appelle le pic-poule, c'est-à-dire tout le génie juif de la langue et du langage qui rend possible un Dieu qui n'est pas Dieu tout en étant Dieu. Et on pourrait imaginer, hypothèse là encore, que le fameux l'esprit du nouveau judaïsme, eh bien, Freud le pose dans la psychanalyse. De sorte que là, verrouillage intégral, si vous vous opposez à la pensée de Freud, de fait, vous êtes radicalement un antisémite. Alors, il utilise cet argument, moins ontologique, moins métaphysique, moins théorique, je dirais, l'argument de l'antisémitisme de base. Du genre, on persécute les juifs parce qu'ils sont juifs et ils ne peuvent pas occuper des places importantes ou des places majeures dans la société parce que les Autrichiens verrouillent et interdisent que des juifs soient avocats, médecins ou occupent des positions stratégiques dans la société. Il nous dit que quand il ne progresse pas assez vite dans la hiérarchie universitaire, c'est parce qu'il est juif. Quand il estime que la psychanalyse ne s'impose pas assez vite, c'est parce qu'il est juif. Et donc, effectivement, ça devient problématique de ne pas être d'accord avec Freud, parce qu'immédiatement, vous êtes taxé d'antisémitisme. Même chose quand il s'agit de supprimer les opposants. Pierre Janet. Il faudrait aussi, et là, je n'ai pas les compétences pour ça, mais il faudrait consacrer un travail à Pierre Janet, qui est un personnage important, agrégé de philosophie, professeur au Collège de France, contemporain de Freud, travaillant la clinique lui aussi, mais pas comme Freud. C'est-à-dire que la clinique de Freud, on voit bien qu'elle procède plus de son bureau, de son papier, de son fantasme, que de l'examen, que de la disponibilité à l'endroit des patients, des malades, en disant « les malades vont m'apprendre des choses ». Freud n'a pas cette modestie-là. Pierre Janet pense qu'effectivement, les malades ont des choses à lui apprendre, qu'il faut les écouter, qu'il faut croiser les informations, qu'il faut procéder de manière épistémologique ou avec une épistémologie digne de ce nom pour pouvoir parvenir à des conclusions sûres, vérifiables, susceptibles de reproductibilité. C'est-à-dire, si vous avez conclu à quelque chose, une théorie, eh bien, cette théorie, si vous la revérifiez, elle sera vérifiable à nouveau. Je veux dire plus concrètement, si rêver de ceci signifie cela, eh bien, il faut qu'à chaque fois que vous rêvez de ceci, ce soit cela. Et à ce moment-là, il faut que 500 fois vous refassiez l'expérience et que vous puissiez faire la démonstration que 500 fois vous obtiendrez la même réponse pour qu'on puisse parler d'une vérité scientifique et qu'on puisse vraiment utiliser le terme vérité. Donc, comme Pierre Janet a eu de la prudence et que, pour le coup, Freud était imprudent et affirmait très vite des choses infondées en disant qu'il avait derrière lui la clinique, évidemment, c'est plus facile de voler au secours de la victoire et de croire que Freud avait inventé plein de choses et que Janet n'avait rien inventé. Les théories de Janet se retrouvent chez Freud, et puis les théories de Breuer, et puis les théories de plein de gens. C'est-à-dire qu'on oublie la plupart du temps quand on dit « oui, mais Freud a inventé quand même les lapsus, les actes manqués, etc., l'oubli des noms propres ». Pas du tout. Il y a toute une littérature qui existait à cette époque-là de gens qui étaient des psychologues qui procédaient modestement, qui ont fait des articles, et Freud a fait une belle synthèse de tout ça. Jacques Van Rialer a fait tout ce travail magnifique pour montrer quels étaient les emprunts de Freud dans cette aventure. Donc Pierre Janet est quelqu'un qui, au Congrès international de médecine à Londres en 1913, parle du pansexualisme freudien. Pansexualisme, c'est de voir du sexe partout. Il dit en gros, Freud, il voit du sexe partout, il n'y a pas que du sexe dans la vie et dans les névroses. Et Pierre Janet aurait dit effectivement que le pansexualisme freudien procédait de l'atmosphère spécifique de Vienne, dans laquelle la sexualité prenait une place exagérée. Bon, C'est un argument un peu court. C'est un argument très 19e siècle, un argument qu'on trouve chez Taine, enfin l'idée que le milieu produirait des idées et que des idées apparaîtraient dans un lieu et pas ailleurs, et qu'il faut vienne pour que le pansexualisme surgisse, alors qu'à Paris, le pansexualisme ne surgit pas de la même manière. Ça vaut ce que ça vaut. Simplement, on peut, pour prêter secours à Pierre Janet, faire savoir que cette fameuse Vienne, elle est tout de même la Vienne du Kraft-Ebing, qui écrit « Psychopathologie sexuelle », un volume qui fait 700-800 pages et qui recense la totalité des perversions possibles et imaginables, de l'ondinisme à la coprophagie, la zoophilie, la nécrophilie, enfin toutes ces choses-là. Si vous avez envie de vous amuser avec votre compagnon ou votre compagne, vous achetez la « Psychopathia sexualis » de Kraft-Ebing et vous verrez que vous risquez de vous amuser. Il y a aussi Sacher-Masoch, qui est l'auteur de « La Vénus à la fourrure », le personnage avec lequel on va fabriquer le masochisme, c'est-à-dire la jouissance qu'il y a à souffrir, à subir de la souffrance, à recevoir de la souffrance, la jouissance dans la souffrance. C'est également la ville d'Otto Weininger, qui a écrit « Sexe et caractère », texte très misogyne, très agressif sur les femmes, où il considère, un peu dans l'esprit aussi d'un Schopenhauer, qu'effectivement la libido, c'est-à-dire en latin la pulsion sexuelle, elle fait la loi et la vérité de tout un chacun. Donc évidemment, ça vaut ce que ça vaut, mais ça se discute. L'idée que Pierre Janet puisse dire de Freud que sa théorie voit du sexe partout, mais que voir du sexe partout quand on est viennois, c'est un peu normal parce que Vienne est ainsi faite, eh bien, c'est un argument que Freud ne critique pas. Mais il utilise un autre argument, avec l'insinuation. Et l'insinuation est une méthode redoutable. À aucun moment, Pierre Janet ne fait savoir que Freud est juif et que c'est peut-être parce qu'il est juif qu'il a cette théorie du sexe. Mais Freud lui-même va laisser entendre que peut-être, point de suspension, je vous donne deux textes. Dans Contribution à l'histoire du mouvement psychanalytique, il écrit, donc sur cette prise de position de Pierre Janet, « Selon ce point de vue, la psychanalyse, en l'occurrence l'affirmation que les névroses se ramènent à des troubles de la vie sexuelle, ne pourrait être née que dans une ville comme Vienne, dans une atmosphère de sensualité et d'immoralité qui serait étrangère à d'autres villes. Elle présenterait tout simplement l'image, pour ainsi dire la projection théorique, de ces conditions viennoises particulières. » Donc, dans ce volume 12 de l'œuvre complète, dans « Contribution à l'histoire du mouvement psychanalytique », Freud reprend cette idée de Janet en disant, Janet me critique en disant, le pansexualisme freudien a à voir avec les conditions de l'émergence de la psychanalyse dans une Vienne où le sexe est partout. C'est une théorie insensée, dit Freud. On peut le croire, pourquoi pas. Mais qui pourrait bien en cacher une autre? Voilà, la perversion qui avance doucement, il pourrait bien en cacher une autre. Point de suspension. Il n'en dit pas plus. Et vous avez dans cette édition une note de l'éditeur, et la note de l'éditeur, deux points, ouvrez les guillemets, allusion vraisemblablement aux origines juives de Freud. Donc effectivement, on n'a pas dit qu'il était antisémite, mais on a laissé croire que peut-être c'était parce que, par antisémitisme que Pierre Janet n'était pas d'accord avec Sigmund Freud. La chose est dite sans être dite, elle est insinuée, c'est extraordinaire l'insinuation. On n'a pas dit, mais on a laissé croire que peut-être. Je vous lis un deuxième texte, Résistance à la psychanalyse. Là, les choses sont plus clairement dites. Résistance à la psychanalyse, deux points, ouvrez les guillemets. Pour terminer, je veux, sous toute réserve, soulever la question de savoir si ma qualité de juif, que je n'ai jamais songé à cacher, n'a pas été, pour une part, dans l'antipathie générale contre la psychanalyse. Pareil argument n'a été que rarement formulé expressément. Nous sommes malheureusement devenus si soupçonneux que nous ne pouvons nous empêcher de douter que ce fait soit resté sans influence aucune. Ce n'est peut-être pas un simple hasard que le promoteur de la psychanalyse, lui donc, se soit trouvé être juif. Pour prôner la psychanalyse, il fallait être amplement préparé à accepter l'isolement auquel condamne l'opposition, destinée qui, plus qu'à tout autre, est familière aux Juifs. Donc Freud nous le dit, je suis juif, mais c'est normal, moi, j'ai l'habitude de la persécution, c'est pas étonnant du tout qu'on me persécute, c'est le destin de tous les Juifs, et donc la psychanalyse, eh bien, c'est une science juive, d'une certaine manière. C'est étonnant de voir sous la plume de Freud une espèce de pensée comme celle-ci, puisque si vous n'êtes pas d'accord avec cette science qui est juive, c'est donc que vous êtes antisémite. Je propose juste une espèce de petite liste, elle est facile à repérer. Je me suis servi de la chronologie de la psychanalyse du temps de Freud, qui a été rédigée par Olivier Douville. C'est un livre qui est constitué de 200 pages de faits bruts. C'est-à-dire on démarre avec l'année de naissance, on termine avec l'année de sa mort, et on explique ce qu'a été la vitesse de propagation de la psychanalyse sur la planète entière. Donc voilà donc un personnage qui nous dit « on ne m'aime pas, on ne s'occupe pas de moi, on ne fait pas de compte-rendu, quand il y a des compte-rendus, ils sont mauvais, les gens sont méchants, j'ai pas de promotion à l'université, certes on me connaît, mais on me connaît pas beaucoup, on me connaît pas bien, etc. etc. » Donc je démarre avec la première mention qui est faite du travail de Freud. On est en 1899. Freud n'a pas écrit grand-chose. Il a écrit conjointement avec Breuer les études sur l'hystérie. Il n'a pas écrit encore l'interprétation du rêve, dont il prétend que c'est son texte génial et celui qui va marquer l'humanité tout entière. Donc Freud a publié quelques petits trucs, notamment ses travaux sur la cocaïne, qu'il a laissé de côté pour les raisons que vous savez. Donc il y a ça dans sa bibliographie et pas de texte majeur. Eh bien, dès 1899, à Salvador de Bahia, l'école de médecine commence à commenter ses propres travaux. Freud a 43 ans, il n'a rien fait encore. Hein. La naissance de la psychanalyse, 1896, le mot, 1896, 3 ans après la naissance du mot, on a déjà des commentaires de son travail à l'école de médecine de Salvador de Bahia. La même année, 1899, à la Clark University des États-Unis, on commente ses études sur l'hystérie. À Lyon, en 1900, une thèse est soutenue qui s'appuie sur ses travaux. Ça fait quand même 4 années après l'invention de la psychanalyse. Vous avez déjà une thèse qui se soutient à Lyon, c'est-à-dire pas à Vienne, par un personnage qui s'appuie sur ses travaux. 1902, Bergson, qui est une vedette totale à l'époque, parle de Freud dans une conférence donnée à l'Institut général de psychologie. En 1903, au Japon, Mori Ogai, le plus célèbre écrivain de l'ère Meiji, mentionne la théorie freudienne de la sexualité dans un article de médecine. L'année suivante, en Argentine, un psychiatre criminologue mentionne Freud dans un article. La même année, Sur le rêve est traduit en Russie. En Suisse, Bleuler recourt à la psychanalyse dans une clinique. En 1905, en Inde, le bulletin psychologique signale l'existence de la psychanalyse. Même chose en Norvège. Aux Pays-Bas, Auguste Sterke ouvre un cabinet d'analystes et publie sur le sujet. En 1909, lors de sa traversée de l'Atlantique, mais là encore, c'est Freud qui le dit. Et comme on le sait avec Freud, quand il n'y a pas de documents, quand il n'y a pas de témoignages, on n'est jamais très sûr que la chose ait été dite, surtout quand il n'y a pas de témoins. En 1909, il traverse l'Atlantique avec Jung. Il s'en va là-bas pour être fait d'ailleurs docteur honoris causa. Docteur honoris causa, ça veut dire qu'aux États-Unis, on lui donne un doctorat honoris causa pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on n'aime pas, qu'on ne traduit pas, qu'on n'invite pas, pour quelqu'un qui n'existe pas, pour quelqu'un qui est persécuté parce qu'il est juif. Il y a des persécutions qu'on aimerait avoir quand elles sont celles-ci. Il nous dit qu'il découvre un garçon de cabine sur le transatlantique qui était perdu dans la lecture de sa psychopathologie de la vie quotidienne. 1910, la psychanalyse rentre à Cuba. Freud a 54 ans. Et j'arrête là, hein, 54 ans. C'est-à-dire qu'il a encore une trentaine d'années à vivre. Vous imaginez à quoi ressemble la diffusion de ce travail sur la planète. Je pense qu'il faut arrêter de dire qu'effectivement, on ne l'a pas assez connu, pas assez aimé, pas assez soutenu, pas assez défendu et qu'on l'a persécuté. Quatrième sophisme, toute critique émanant d'un tiers exclu du couple analyste-analysé est infondée. Freud interdit la présence d'un tiers. Il n'est pas question pour lui d'envisager la séance autrement que psychanalyste et psychanalysé. Il nous le dit dans Leçon d'introduction à la psychanalyse, il n'est pas question, par exemple, que quand vous vous faites opérer de l'appendicite, vous acceptiez la famille dans le bloc opératoire. Freud fait savoir que personne ne doit assister à ce qui a lieu dans le cabinet de l'analyste. Dans les traitements psychanalytiques, l'interférence des proches est franchement un danger, dit Freud. Donc pas besoin de raconter. Pas besoin de dire, pas besoin de partager votre analyse avec des gens qui pourraient trouver que c'est peut-être un peu du bidon. Parce que ces gens-là, nous dit Freud, la plupart du temps, ils ont intérêt à ce que vous restiez malade. Il y a intérêt chez nombre de tiers à ce que le patient ne guérisse pas. Allez savoir pourquoi, Freud nous dit effectivement. En même temps, l'intimité de l'analyste exclut qu'on puisse avoir des tiers, parce que vous pourriez avoir du mal à dire de ces tiers-là. Vous pouvez avoir des choses à raconter. Imaginez que vous avez un père, une mère, frère, sœur, amant, maîtresse, je ne sais pas quoi. Et vous pourriez, au moment de l'analyse, avoir des choses à dire qui ne seraient pas des choses forcément très agréables à entendre pour la personne qui est là. Donc Freud dit il ne faut pas qu'un tiers puisse perturber l'écoute. Le transfert est nécessaire. Le transfert suppose que vous ayez mis votre patient dans un état de régression infantile. Il le dit lui-même. Le divan est fait pour ça. Il s'agit de retrouver les sensations, les émotions infantiles. Il s'agit de redevenir un enfant pour essayer de faire surgir à la conscience, ce qui aura été refoulé dans un moment de traumatisme qui aura été infantile. Donc il est question de mettre l'individu dans un état de suggestion. Il s'agit d'être le petit garçon et la petite fille du papa qui vous analyse. Et Freud dit, il y a un transfert, c'est-à-dire qu'à un moment, on va adorer cette personne-là, et puis à un moment, on va détester cette personne-là. Et Freud dit, le transfert, c'est ce qu'il y a de discret et de secret dans l'aventure. Le psychanalyste est quelqu'un qui accepte d'être aimé. Il sait que ce n'est pas lui qu'on aime dans cette aventure. Il sait que ce qu'on aime, c'est la figure paternelle. Et puis après, il accepte d'être détesté, parce qu'il sait que ce n'est pas lui qu'on déteste, mais que c'est la figure paternelle qu'il est nécessaire de remettre au centre pour que vous puissiez, de manière régressive, vous retrouver dans la peau du petit garçon ou de la petite fille traumatisée que vous auriez pu être et qui, d'un seul coup, va découvrir la nature de son propre trauma. Il est bien évident que tout ça suppose, nous dit Freud, que personne n'assiste à ça, donc personne ne doit être témoin de ce qui se dira. Donc c'est une affaire entre l'un et l'autre, de paroles qui s'échangent. Freud nous dit, la psychanalyse, ça n'est que ça, ce sont des mots de l'un qui sont censés tomber dans l'oreille de l'autre, et rien d'autre, nous dit-il. Cinquième sophisme, tout échec de la psychanalyse est imputable au patient, jamais au psychanalyste. Premier sous-sophisme dans cette aventure, on le prend par exemple avec le cas d'Aura, et vous avez ça dans Fragments d'une analyse d'hystérie. Freud développe une théorie qui s'appelle le bénéfice de la maladie. Bénéfice de la maladie. Il nous dit, parfois, on a plus intérêt à être malade qu'à être guéri. Parce que si vous êtes un petit garçon et que vous êtes malade, eh bien, immanquablement, votre maman va venir, va vous caresser, va vous cajoler, va avoir un souci pour vous qu'elle n'aura pas en temps normal. Et pour les adultes, c'est pareil. On peut imaginer que des individus, dans la mesure où effectivement on se souciera d'eux, eh bien ils auront intérêt à être malades. Et de fait, si vous allez sur un divan, qu'on vous dit parlez, racontez tout ce que vous voulez, vous ne vous ferez pas interrompre, c'est royal. Parce qu'habituellement, quand vous emmerdez vos amis, votre famille, ils soufflent ou ils regardent autre chose, ils ouvrent un journal. Là, vous avez quelqu'un qui est payé pour vous écouter tout le temps. Pour le narcissisme, c'est extraordinaire. Donc bénéfice de la maladie. On a intérêt à rester malade. Freud nous dit, les névroses de guerre, par exemple, ils ont intérêt à rester névrosés, comme ça on ne les renvoie pas au front. C'est un peu cynique, ceci dit, d'imaginer que les gens qui auraient été traumatisés par le front, qui auront vu leurs copains mourir, qui auront vu leurs copains se vider de leur propre sang, bien finalement, ils ont un intérêt secret à rester atteints, simplement parce que comme ça on évitera de les renvoyer au front. C'est pareil, un peu cynique. On esquive aussi, dit Freud, des situations qu'on serait incapable de supporter dans la vie réelle, c'est-à-dire au travail, par exemple, si vous vous faites harceler moralement ou sexuellement, ou si vous avez un chef insupportable, eh bien, il y a un bénéfice à être névrosé, à rentrer dans une hystérie, parce que c'est nettement plus intéressant, nous dit Freud, que de devoir faire face au réel. Et Freud prend l'exemple d'un ouvrier qui tombe d'un toit. Il dit, voilà, vous avez un ouvrier couvreur, il est sur le toit, il glisse, il tombe et il devient paralysé. Il va se mettre à mendier, il va obtenir des subventions, on va l'aider. Et Freud dit, bah, finalement, son handicap lui rapporte plus que sa santé. Et pourquoi aurait-il envie de cesser d'être handicapé ? Deux points, ouvrez les guillemets. Quand on lui enlève celle-ci, il parle de l'infirmité. Hein. Quand on lui enlève cette infirmité, et on le plongera peut-être dans le plus complet des aides. Entre-temps, il a oublié son métier, perdu ses habitudes de travail, il s'est habitué à l'oisiveté, peut-être aussi à la boisson. Hein, c'est un ouvrier, donc voilà. Donc effectivement, quand vous tombez d'un toit et puis que vous êtes handicapé, eh bien, c'est plus rentable que de continuer à bosser comme charpentier. Eh bien, il en va de même avec la psychanalyse, vous avez intérêt à tomber du toit, à vous fracturer, à être un handicapé, puisque vous auriez un intérêt moindre à recouvrer une santé mentale. Donc si la psychanalyse ne marche pas, c'est que vous avez un bénéfice à la maladie. Et Freud nous dit, bénéfice de la maladie, on ne peut rien faire. Un psychanalyste ne peut rien faire avec quelqu'un qui ne veut pas guérir. Deuxième sous-sophisme, et ça c'est assez extraordinaire, c'est l'échec à cause du succès. Dans l'analyse avec fin et l'analyse sans fin, Freud nous explique que la cure, alors, vous voyez les guillemets, était en danger d'échouer justement à cause de son succès. C'est-à-dire que le patient est tellement content que ça marche qu'il arrête de coopérer. Et il nous dit que ça a marché comme ça avec l'homme au loup. Ça avançait tellement bien, ça progressait tellement bien que l'homme au loup s'est arrêté. Il a arrêté de coopérer, donc effectivement, ben on ne soigne pas, on ne guérit pas, dit Freud. Pour quelle raison ? Non pas parce que le psychanalyste ne sait pas faire, mais parce que le psychanalysé ne veut pas faire. Parce que le psychanalyste, lui, il sait tout, il peut tout, il veut tout, il obtient tout. Mais il ne peut pas obtenir contre les gens. Et si effectivement vous considérez que dès que le succès arrive, vous avez plutôt intérêt à ce que l'échec continue, alors qu'est-ce que vous voulez faire avec des individus comme ceux-là ? Il nous explique que, effectivement, ça a fonctionné comme ça avec Sergueï Pankéïev, mais Sergueï Pankéïev, plus tard, en 1974, quand il donne un entretien, il explique un petit peu ce que Freud disait. Ouvrez les guillemets. Freud disait que si on avait une psychanalyse derrière soi, on pouvait guérir. Mais que pour cela, il fallait aussi vouloir guérir. Que c'était comme un billet de chemin de fer. Le billet me donne la possibilité de faire un voyage, mais ne m'y oblige pas. La décision dépend de moi. Donc comme ça, l'affaire est réglée. Freud a fourni le billet. Si vous ne faites pas le voyage, c'est votre affaire, mais c'est pas l'affaire de Freud. Dans Le Moi et le Ça, un petit article, il nous explique pourquoi ça se passe comme ça. Il nous dit que c'est la pulsion de mort qui est à l'origine de ça. C'est-à-dire que ça allait marcher. Mais comme finalement, vous n'aviez pas envie que ça marche, vous avez tout fait pour que ça ne marche pas. C'est la pulsion de mort qui se retourne contre vous-même et vous détruisez ce que le psychanalyste a bien construit. Le psychanalyste a construit une guérison, mais vous ne voulez pas de cette guérison, donc vous détruisez cette guérison. Donc si ça ne marche pas, c'est de votre faute. Pulsion de mort retournée contre vous-même. Donc, d'une certaine manière, l'échec du patient, c'est le succès du psychanalyste, parce qu'il aura trop bien fait son travail. Troisième sous-sophisme, une névrose peut en cacher une autre. Et ça, c'est à l'amateur de train qui fournit les billets. Freud soigne et guérit, il nous dit. Il supprime les symptômes, il conclut au succès, il nous dit, voilà, moi j'ai soigné telle personne, ça s'est bien passé, et le personnage a disparu dans la nature et l'affaire est réglée. Et puis des fois, les patients réapparaissent. Mais ils réapparaissent pour autre chose. C'est pas la même chose qui les reconduit ici, c'est autre chose. Et cette autre névrose, elle était cachée derrière l'autre. Et Freud ne peut tout de même pas être coupable d'avoir bien fait son travail une fois, mais de ne pas avoir fait le travail d'une névrose qui, en plus de ça, était tellement cachée qu'elle n'était même pas encore là, mais qu'elle a surgi après. Comme si, dans une névrose, on pouvait prélever, comme dans un fromage taillé, en disant « j'ai guéri cette partie-là, l'autre partie, c'est autre chose, mais je ne m'en suis pas occupé », si on pouvait fragmenter les névroses. Freud ne veut pas dire que, quand Emma Eckstein revient, par exemple, le voir, après avoir été théoriquement psychanalysé, sauvé, guéri, de dire « ça n'a pas marché ». Non, il dit « ça a marché, elle vient pour autre chose », qui n'a rien à voir avec ce qui existait précédemment. Et puis, dans ce texte qui s'appelle « L'analyse avec fin et l'analyse sans fin », Freud nous dit qu'il faut, et la phrase est magnifique, « prévoir le destin ultérieur d'une guérison ». Qu'est-ce que ça veut dire « prévoir le destin ultérieur d'une guérison » Qu'est-ce que ça peut bien signifier? Parce qu'une guérison pourrait ne pas être définitive. Si une guérison n'est pas définitive, c'est une non-guérison. Ça s'appelle une rémission, il y a un mot pour ça, mais ça ne s'appelle pas une guérison. Quand on guérit, on guérit. Soit la guérison a eu lieu, à ce moment-là, il n'y a pas de suite à envisager, soit il y a des suites à envisager, alors il n'y a pas eu de guérison. Ça paraît extrêmement clair. Mais l'idée que quand vous avez une névrose et que vous l'avez guérie, il faut envisager que la guérison puisse vous ramener tout de même sur le divan. Donc, sophiste, évidemment. Sixième sophisme, le psychanalyste n'est pas encore assez psychanalyste. On considère que l'inefficacité de la psychanalyse, elle se soigne non pas par l'abandon de la psychanalyse, pour y dire ça marche pas, on arrête, mais on vous dit, c'est que vous n'êtes pas encore assez psychanalysé. Vous n'avez pas assez fait de séances. Il faut continuer. C'est un petit peu comme ça avec les régimes marxistes, quand on disait, mais il y a des goulags, mais il y a des camps de concentration, mais il y a des déportations, mais il y a des famines organisées, on vous dit, mais c'est parce qu'il n'y a pas encore assez de socialisme. S'il y avait plus de socialisme, il n'y aurait plus rien de tout ça. Oui, effectivement, c'est vrai que si on fait fonctionner les camps, il y a un moment où il n'y a même plus de quoi faire des socialistes. Donc on peut imaginer effectivement que le problème n'est pas dans la chose elle-même, la psychanalyse, mais qu'elle est dans le fait qu'il n'y a pas encore assez de psychanalyse. De sorte que, vous avez vu, avec les six sophismes, normalement, on ne doit pas s'en sortir. Premier sophisme, on interdit le jugement du quidam non analysé. Deuxième sophisme, on décrète malade quiconque manifeste un esprit critique. Le troisième, on traite d'antisémite l'adversaire intellectuel. Le quatrième, on disqualifie le patient rétif pour cause de bénéfice de la maladie. Le cinquième, on disculpe le psychanalyste en faisant de l'échec le produit de son succès. Et le sixième, on épargne la méthode, elle est toujours thaumaturgique, c'est-à-dire qu'elle soigne toujours, elle guérit tout le temps. Reste donc la possibilité de mettre en cause le psychanalyste en considérant qu'il n'est pas assez aguerri, pas assez chevronné, pas encore assez expérimenté. Si la psychanalyse manque son but, ce n'est pas la faute de la psychanalyse, c'est à cause du fait qu'il n'y aura pas assez de psychanalyse. Donc ajoutons la psychanalyse. Conclusion. À tous les coups, l'on gagne. Vous avez vu qu'avec cette logique-là, à tous les coups, l'on gagne et il n'y a pas de possibilité d'échapper à cette discipline qui soigne, qui guérit, qui a tout prévu. La psychanalyse dispose de ce fait, avec ce verrouillage sophistique, d'une extraterritorialité intellectuelle. Elle est inaccessible au jugement, elle est inaccessible au dialogue, elle est inaccessible à la critique. On n'a pas le droit de ne pas être d'accord. Et je dirais que c'est à cela, d'ailleurs, qu'on distingue une idéologie totalitaire. Elle ne permet pas qu'on n'en soit pas le dévot. Voilà, merci pour aujourd'hui. Alors, il y a peu de choses, évidemment, puisque vous avez eu un rouleau compresseur freudien en France depuis un siècle. Si vous cherchez des choses sur Pierre Janet, vous ne trouverez pas grand-chose. La bibliographie est réduite à presque néant. Vous avez eu un tout petit texte de Claude Prévost, Janet, Freud et la psychologie clinique, chez Payot, mais qui ne rend pas assez hommage, à mon avis, à Pierre Janet. Je vous assure qu'il y a chez Pierre Janet une potentialité extraordinaire pour reprendre les choses à zéro si on veut fonder aujourd'hui une psychanalyse post-freudienne. Il me semble qu'il y a des richesses chez Pierre Janet. Je parlais tout à l'heure de ce texte qui est hagiographique, une autobiographie de Freud, « Ma vie et la psychanalyse », Sigmund Freud, exemplaire de ma classe de terminale. Quand vous avez 16-17 ans, ce qui était mon cas, on ne doute pas d'un livre publié aux éditions Gallimard. Voilà, c'est la vérité, c'est dit. Donc c'est vrai. Même chose avec Ernest Jones, « La vie et l'œuvre de Sigmund Freud », ça j'ai eu l'occasion de vous en parler, trois gros volumes aux presses universitaires de France. William Johnston, « L'esprit viennois », qui est un ouvrage très, très dense sur la Vienne fin de siècle, pour savoir ce qu'était la Vienne de cette époque-là, très fasciné par la pulsion de mort. Lisez Schnitzer, par exemple, le théâtre de Schnitzer, d'Arthur Schnitzer, ou les nouvelles. Vous verrez effectivement qu'il y a un climat, on n'y peut rien. La Vienne fin de siècle, ce n'est pas le Paris fin de siècle, ce n'est pas exactement la même chose. La fameuse chronologie de la psychanalyse du temps de Freud dont je vous ai parlé, Olivier Douville, chez Duneau, très beau travail. De Samuel Lézé, quelque chose qui est sorti il y a un mois, « L'autorité des psychanalystes », qui est le texte d'un jeune sociologue qui essaie de voir de qui s'autorise le psychanalyste pour dire qu'il détient la vérité, les certitudes, pourquoi ça marche comme ça, comment devient-on psychanalyste, pourquoi nombre de gens pas bien dans leur peau vont voir des psychanalystes et deviennent même des psychanalystes après avoir fait une analyse qu'on dira didactique, etc., etc., le rapport à l'argent, le rapport... Une sociologie qui a ses limites, mais enfin qui a son intérêt parce que ça n'existe pas en dehors de ce travail. Et puis de Jacques Van Rilaer, « Les illusions de la psychanalyse », Mardaga, je voudrais redire combien je dois au livre de Jacques, qui est un beau livre, grand livre, très, très précurseur, mais lui aussi a eu droit à ses attaques antisémites, etc., etc., etc. Voilà pour la bibliographie.
C'était les conférences de l'Université populaire de Michel Onfray. Régisseur son au Centre dramatique national de Normandie, Philippe Petit. Prise de son, Patrick Chanteclair, France Bleu Basse Normandie. Mixage, Pierrick Charles. Réalisation, Véronique Villas.